écoutez Europe 1, il est 22h. C'est l'heure du journal, Théo Manval.
On est désespéré, on ne croit plus en vous. C'est gentil la prime. C'est,
non, 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 mais
c'est gentil, on laissez-moi
finir.
Quand même.
Laissez-moi finir.
Pour vous, c'est la revalorisation.
C'est ce que je suis en train de dire.
Combien et quand?
Des blouses blanches, toujours dans une colère noire. Emmanuel Macron peine à convaincre le secteur hospitalier. Mea culpa aujourd'hui à la Pitié-Salpêtrière. Le président reconnaît des erreurs, promet de l'investissement. On attend toujours du concret, lui répondent ses infirmières. La préoccupation de l'OMS ce soir. Il faut comprendre le lien possible entre Covid-19 et maladie de Kawasaki chez les enfants. Un garçon de 9 ans vient de mourir à Marseille. Il est le tout premier en France.
Sa sérologie indiquait qu'il avait été en contact avec le coronavirus, sans en développer les symptômes dans les semaines précédentes.
Dans ce journal, on vous accompagne aussi sur la route du week-end. Premier week-end déconfiné, quelle destination privilégiée? On fera le point sur le bon de fréquentation du site de la SNCF. Tour d'horizon des plages, bien sûr, que vous pourrez à nouveau arpenter dès demain.
Trop hâte, on est tous hyper impatients. On a tous déjà préparé le maillot, la serviette et on espère pouvoir cheminer.
Et puis, quel sort à plus long terme cet été pour les colonies de vacances? Côté sport, on se penchera sur le patient OM, à l'état décidément bien instable, même quand la saison de foot est pourtant à l'arrêt. À 22h20, l'interview écho d'Emmanuel Duteil. Le marché immobilier est-il en train de repartir? Yann Géhanneau, président de La Forêt France, viendra nous le dire. On fera le point sur la bourse avec Claire Lemaître de boursier.com. Et puis sur vos prévisions météo pour ce week-end qui s'annonce ensoleillé. Prévisions météo comme chaque soir avec Anissa.
Europe 1.
104 morts supplémentaires du coronavirus ces dernières 24 heures en France, mais une centaine de patients sortis des services de réanimation. La pression continue de se relâcher petit à petit sur les hôpitaux français qui restent à un niveau de tension jamais vu et qui ont donc reçu ce matin une nouvelle visite d'Emmanuel Macron. Visite surprise, sans micro ni caméra, mais avec un mea culpa qui a eu du mal à se faire entendre, Adrien Beck.
Oui, devant les médecins, Emmanuel Macron a reconnu une erreur sur sa stratégie pour l'hôpital engagée il y a 2 ans. En clair, pas assez vite, pas assez fort. Pendant ses 4 heures de visite ce matin, le président a été interpellé plusieurs fois, comme ici, dans cette vidéo repérée par nos confrères de BFM. Vif échange entre Emmanuel Macron et deux soignantes qui attendent plus qu'une médaille et une prime.
C'est gentil la prime. C'est,
non, non, non,
c'est
mais
gentil, on
laissez-moi finir. Laissez-moi finir.
C'est la revalorisation.
C'est ce que je suis en train de dire.
De combien et quand?
Oui. C'est ce que je suis en train de dire.
Et parce que ça fait longtemps que le gouvernement nous l'annonce.
On va rajouter des conditions.
Non, non, mais.
Sur chaque promesse,
on va
rajouter des conditions.
Non, moi, j'ai jamais fait de promesse.
On est désespérés, on ne croit
alors,
plus en vous.
Moi, je n'ai jamais fait de promesse. Donc, vous avez raison de ne pas avoir cru en moi là-dessus. Parce que j'ai jamais fait de promesse là-dessus. Quand je fais des promesses, je les tiens.
Et justement, Emmanuel Macron en a pris l'engagement ce matin, mettre fin à la paupérisation de l'hôpital avec de meilleures rémunérations, des carrières revalorisées et plus d'investissements. Rien de chiffré, car le plan reste à construire. Olivier Véran va débuter la semaine prochaine les concertations et il y a urgence. Certains syndicats hospitaliers envisagent déjà une journée de mobilisation à la mi-juin.
Adrien Beck du service politique d'Europe 1 maintient de la pression, donc en attendant de voir vraiment du concret. C'est bien ce que dit Blandine Chauvel. Elle est assistante sociale à la Pitié-Salpêtrière, membre du collectif Interhôpitaux, et elle s'est retrouvée face à face avec le chef de l'État tout à l'heure.
Je me suis un peu retrouvée nez à nez avec Monsieur Macron, ce qui était un peu inattendu pour moi. Et bon, ça faisait longtemps que j'avais envie de lui dire ces 4 vérités, donc ça a été l'occasion de le faire. Il m'a demandé c'était quoi les problèmes selon moi dans l'hôpital. Moi, je lui ai dit déjà, il paraît qu'on est les héros de la nation et voilà. Sauf que moi, j'ai quand même la réalité, c'est que nos salaires sont très bas et que là, moi, j'ai une collègue l'autre jour qui m'a dit qu'elle n'arrivait plus à payer son loyer, qu'elle allait quitter l'hôpital parce que c'était plus possible pour elle de devoir choisir entre bouffer et payer son loyer, et c'est la réalité de plein de gens à l'hôpital. Donc je lui ai dit que les conditions de travail aussi étaient très mauvaises, qu'il y avait un gros problème de sous-effectif qui n'allait pas s'arranger. Donc il m'a fait un oui, mais je vous ai entendu, je comprends et autres, mais je vous promets un grand plan avec des augmentations de salaire. Et moi je lui ai dit écoutez, oui, moi je veux bien, mais ça fait un an qu'on le demande, ça fait un an qu'on se bat pour, donc c'est quand que ça arrive quoi, on n'y croit pas trop quoi.
Blandine Chauvel, assistante sociale à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, qui a interpellé Emmanuel Macron ce matin. Elle répondait à Hélène Terzian. L'Organisation mondiale de la santé veut tout faire pour lever le mystère autour de la maladie de Kawasaki. Elle appelle ce soir tous les cliniciens du monde à travailler pour comprendre le lien éventuel entre ce mal qui touche les enfants et parfois, semble-t-il, donc le coronavirus. Un premier décès d'un garçon de 9 ans a été annoncé aujourd'hui en France. Il a eu lieu le week-end dernier à l'hôpital de la Timone à Marseille. Stéphane Frangy, cet enfant n'avait pas de symptômes, mais les tests sérologiques ont montré qu'il avait été exposé au coronavirus. Qu'en sait-on ce soir ?
Eh bien, ce garçon a été admis une première fois aux urgences le 2 mai dans la journée pour des symptômes de fièvre, d'éruption cutanée. Le diagnostic posé est donc celui d'une scarlatine dont les signes visibles ressemblent à ceux de la maladie de Kawasaki. Pas de signe de gravité, il va donc rentrer chez lui. Mais dans la soirée, il va faire un arrêt cardiaque et le SAMU le transfère donc à la réanimation pédiatrique du professeur Fabrice Michel.
L'enfant présentait des signes pouvant ressembler à une maladie de Kawasaki. Sa sérologie, pratiquée au sein du service de réanimation pédiatrique, indiquait qu'il avait été en contact avec le coronavirus sans en développer les symptômes dans les semaines précédentes. La pathologie de cet enfant a entraîné une atteinte cardiaque qui a provoqué un arrêt cardiaque et des lésions cérébrales qui en ont suivi, cause de sa mort. Par respect pour la douleur de la famille et en raison du secret médical, aucune autre information ne sera communiquée.
Voilà, et d'après ce professeur, il s'agit du premier cas mortel de syndrome de Kawasaki recensé en France, le second en Europe.
Merci à vous Stéphane Frangy en ligne de Marseille pour Europe 1. Marseille dont on a beaucoup parlé pour les études sur l'hydroxychloroquine menées par le professeur Raoult. Eh bien, deux nouvelles études françaises et chinoises viennent jeter un peu plus le doute sur l'efficacité de cette molécule contre le coronavirus. Menées sur 150 et 181 patients, elles n'ont pas permis de voir ni une baisse des admissions en réanimation, ni une baisse des décès.
Europe 1. Théo Manval.
Il est 22h06 sur Europe 1. Allez, on part en week-end avec vous, peut-être, sur la route ce soir. Premier week-end post-confinement, ça fait du bien de respirer un peu d'air, en respectant bien sûr les gestes barrières. Le virus reste très présent, martèle encore le ministère de l'Intérieur. Les forces de l'ordre mènent des contrôles pour faire respecter la distance des 100 km. Mais ceux qui habitent près des côtes vont pouvoir retrouver le chemin des plages. Elles sont assez nombreuses hein, à réouvrir demain matin, Justin Morin.
Oui, à commencer par celle du Pas-de-Calais entre 8h et 21h. Les décrets préfectoraux sont tout frais de ce matin. Les habitants du Nord vont pouvoir profiter des longues étendues de sable et de la mer sur 18 plages. Le Touquet, le Portel ou encore Berck-sur-Mer, où les activités nautiques vont aussi pouvoir reprendre. La saison peut enfin commencer pour Jérôme Buzelin, patron de l'école Opal Kite et lui-même kitesurfer.
C'est le mot enfin, libération et pressé de fouler le sable blanc. Ça me manque depuis un mois et demi. Là. C'est vrai que ça commence à faire long. J'avais commencé la saison le 7 mars et depuis rien. Donc ça fait vraiment plaisir.
La règle est simple, c'est le concept de plage dynamique. Pas de serviette au sol, on y va pour bouger. Idem en Normandie ou en Gironde, avec un accès possible dès 6h pour que les surfeurs profitent des meilleures vagues. Louise Bordelaise est en train d'organiser une virée pour revoir l'océan.
Trop hâte. J'y vais avec des amis, ouais. On remplit une voiture, on y va à 5. Et on est tous hyper impatients. On a tous déjà préparé le maillot, la serviette et on espère pouvoir se baigner. Ça m'a beaucoup manqué, ça fait 4-5 mois que je n'y suis pas allée, donc j'ai quand même...
Sur la Côte d'Azur, 13 communes dont Nice et Cannes viennent de recevoir le feu vert du préfet, toujours avec les mêmes règles.
Voilà, pas question de lézarder, soit on se baigne, soit on se promène, mais on ne reste pas statique. Merci à vous Justin Morin. Et pour ceux qui n'ont pas la plage, vous allez peut-être profiter de ce week-end pour réserver vos prochaines vacances d'été. Ce matin, la SNCF a ouvert les ventes sur son site internet après que le Premier ministre a annoncé hier qu'on pourrait voyager en France en juillet et en août. Et Emmanuel Dutheil, forcément, on a vu aujourd'hui un bond de fréquentation en ligne.
Oui, la fréquentation du site Oui SNCF a plus que doublé par rapport à la semaine dernière, 120% de progression et les ventes ont été multipliées par 5. On est sur le double d'une journée normale de mai pour vous donner une petite idée. Mais malgré tout, pour une journée d'ouverture de vente d'été, on est encore sur de tout petits volumes. La SNCF s'attend à ce que ça s'amplifie ce week-end. Les destinations les plus recherchées sur le site Oui SNCF sont, selon nos informations, dans l'ordre Lyon, Bordeaux, Marseille et Lille. C'est assez classique. Et comme quoi tout le monde n'est pas trop rassuré pour le moment, les Français réservent sur de très courtes périodes. On est sur des séjours de 2-3 jours pour le moment et principalement sur des week-ends selon le groupe ferroviaire. La SNCF prévoit pour le moment de faire rouler 100% des TGV et intercités prévus cet été. Mais sauf si la réglementation devait évoluer, elle ne vend qu'un siège sur deux pour respecter les distances de sécurité. Si vous avez un doute, sachez que les billets sont de toute façon échangeables et remboursables sans frais.
Merci beaucoup Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. Toujours côté voyage, le gouvernement gouvernement annonce ce soir 50 millions d'euros d'aide pour le transport routier de voyageurs. Et en Occitanie, la présidente de la région, Carole Delga, demande aux entreprises autoroutières de rendre les péages gratuits pour cet été. Elle veut soutenir évidemment les départs en vacances et le tourisme qui représente 10% du PIB occitan. Alors les vacances d'été se précisent, mais le flou persiste sur les colos pour les enfants. Jean-Pierre Montanet nous a rejoint. Jean-Pierre, est-ce que ces colonies de vacances vont survivre au coronavirus ?
C'est une grande question. Le gouvernement s'est donné jusqu'au 2 juin avant de trancher. Il espère alors y voir plus clair sur deux points. La limite des 100 km pour les déplacements et l'autorisation des rassemblements seront-elles levées ou pas ? Si c'est niette, autant dire que les jolies colonies passeront hélas à la trappe. En attendant, le gouvernement planche sur un protocole sanitaire strict dans la même veine que celui mis en place à l'école pour encadrer aussi bien les colonies de vacances que les camps de scouts.
Et alors, quel est l'état d'esprit des organisateurs de ces colonies ?
Ils sont dans les starting blocks, hein, impatients de savoir ce qu'on va leur imposer, si le feu vert est donné, quel sport autorisé, combien d'enfants maximum dans chaque colonie. J'ai parlé avec Anne Carayon, un patronne de jeunesse au plein air qui regroupe des organisateurs comme l'UCPA. Pour elle, l'esprit de la colo est un peu contraire avec la distanciation sociale. Alors sa théorie est de dire que la colonie fonctionne comme une famille confinée qui se protège de l'extérieur. Bon, d'accord, mais alors faudra-t-il tester moniteurs et enfants avant de partir, ou la prise de la température au début du séjour suffira-t-elle ? Tout ça est encore un peu vague.
Et question tarif, Jean-Pierre, est-ce que le coronavirus va rendre les séjours plus chers ?
Eh bien, Anne Carayon, elle a déjà fait l'addition. Hein, plus d'animateurs pour fractionner les groupes, plus de personnel pour désinfecter les locaux et des chambres à revoir hein, pour les aménager afin d'éviter la promiscuité. Eh bien, le tarif moyen de la semaine à 500 € grimpe entre 10 et 15%. Si l'État ne prend pas en charge ce surcoût, elle voit mal les organisateurs se lancer dans l'aventure cet été. Le gouvernement, m'a-t-on dit, a promis une aide, mais il compte ses sous avant d'annoncer quelle enveloppe exacte il pourra débloquer.
Eh bien, merci à vous pour toutes ces précisions, Jean-Pierre Montanet. On vous retrouve lundi dans le 18-20 de Nathalie Lévy.
Europe 1, le journal de la nuit.
Merci d'avoir choisi Europe 1. Il est 22h11. Au volet économique, Amazon espère rouvrir progressivement ses entrepôts en France à partir de mardi prochain. Entrepôts fermés depuis la mi-avril après une décision de justice. Sous la pression des associations de consommateurs, Air France KLM annonce ce soir que tous ses clients dont les vols ont été annulés pour cause de pandémie pourront bien se faire rembourser. Les compagnies aériennes préfèrent souvent, vous le savez peut-être, donner un simple avoir pour un voyage futur. Mais le choix d'être remboursé fait partie des droits octroyés par la réglementation européenne. À l'Assemblée nationale, les députés ont voté en première lecture un nouveau projet de loi d'urgence aujourd'hui. Notamment, les CDD pourront être renouvelés plus de deux fois de suite pendant la période de relance économique. Il y a un secteur, en revanche, qui attend toujours désespérément des annonces. C'est l'événementiel. Depuis deux mois, aucun salon, aucune foire, aucune grande expo. D'où ce coup de gueule ce soir de Loïc Fauchon, président de la SAFIM. C'est la société qui gère le parc Chanot, le parc des expositions de Marseille.
Nous constatons aujourd'hui qu'on ne traite pas toutes les activités de la même manière. On voit des centres commerciaux avec 10 000, 20 000 personnes, 30 000 personnes dans le week-end et on a bloqué tout l'événementiel culturel, sportif et pour ce qui nous concerne, celui des salons, des foires, des expositions. Je m'insurge contre ce traitement qui est fait à des dizaines de milliers de salariés qui aujourd'hui sont au chômage technique, sont parfois licenciés. Et donc les Français ont le sentiment qu'il y a deux poids deux mesures. Et ça suffit d'être dirigé par quelques centaines de personnes à Paris qu'on ne voit jamais, qui sont dans des bureaux et qui n'ont aucune connaissance des affaires du terrain. Qu'on nous laisse libre et qu'on nous laisse travailler. Mais nous allons prendre des initiatives. Et il faudra que l'État nous refuse ces initiatives.
Lesquelles par exemple ?
Des activités culturelles, sportives que nous allons proposer. Et la population sera témoin qu'on laisse un tout petit peu d'autonomie aux gens et qu'on leur fasse confiance, surtout qu'on leur fasse confiance et qu'on arrête de nous prendre pour des enfants.
Le besoin de confiance du gérant du parc des expositions de Marseille, Loïc Fauchon, il répondait pour Europe 1 à Nathalie Chevance. En bref, à l'étranger, déconfinement progressif en Irlande à partir de lundi prochain, mais une quatorzaine sera imposée comme en Espagne aux voyageurs arrivant de l'étranger. La basilique Saint-Pierre au Vatican rouvrira ses portes aux touristes lundi également. Elle a été entièrement désinfectée. Et puis les négociations post-Brexit toujours au ralenti. Londres et Bruxelles se sont chacune accusées aujourd'hui de ne pas faire avancer les négociations. Le Royaume-Uni exclut d'ores et déjà toute prolongation des discussions après la fin de l'année. Les pourparlers doivent reprendre d'ici deux semaines. Allez, on termine avec les sports et décidément l'OM en football ne sera jamais un club comme les autres. La saison est à l'arrêt, il n'y a plus de matchs, le club est qualifié pour la Ligue des Champions l'an prochain. Mais Julien Froment, il vient de remercier son directeur sportif et conséquence, l'entraîneur André Villas-Boas pourrait lui aussi faire ses valises.
Alors ce que l'on sait, c'est que André Villas-Boas a rencontré le président de l'OM, Jacques-Henri Hérault. Il serait reparti chez lui à Porto avec une proposition de prolongation de contrat, mais la tendance est plutôt à la rupture. Le Portugal a dit son avenir est intimement lié à celui de Zubizarreta. Villas-Boas a aussi réclamé des garanties pour la saison prochaine, notamment en termes de recrutement, car l'OM va rejouer la Ligue des Champions après 7 ans d'absence. Pour le moment, il n'en a aucune. C'est une histoire de gros sous. Marseille a trop dépensé et pas assez vendu. Résultat, le fair play financier rôde et pourrait même exclure l'OM de la Ligue des Champions si le club ne vend pas pour 60 millions d'euros d'ici le 30 juin. Enfin, concernant le successeur de Zubizarreta, j'ai passé quelques coups de fil et il y a peu de chances pour que ce soit Antero Henrique, l'ancien directeur sportif du PSG. Cette piste est farfelue, m'a-t-on confié. Antero Henrique serait d'ailleurs proche de s'engager avec les Anglais de Manchester United. Le poste de directeur sportif, c'est mission impossible à l'OM, m'a-t-on aussi soufflé. Il va falloir beaucoup vendre et peu acheter. Un programme qui ne risque pas de rassurer les supporters marseillais.
Effectivement, Julien Froment du service des sports d'Europe 1, 22h16. L'heure de faire un point sur la météo de votre week-end avec vous Anissa. C'est toujours compliqué et agité dans le sud. Hein.
Ouais, effectivement Théo, hein, ça continue ce scénario très maussade dans le sud. Alors dans la matinée, c'est uniquement sur les Pyrénées que le ciel sera gris avec des averses. Partout ailleurs, le temps est sec avec même du grand soleil au nord de la vallée du Rhône. Dans l'après-midi, ça se complique. Sur les Alpes et sur la Provence, là le temps est très agité avec même des orages qui vont s'étendre jusque sur la Côte d'Azur. En Corse, le ciel reste couvert mais sans pluie. Et puis au nord, d'une ligne entre Bordeaux et Lyon, la journée est très ensoleillé. Il va faire très beau demain sur toute la moitié nord du pays dans un ciel complètement dégagé. Le Mistral et la Tramontane se lèvent doucement dans le sud et souffrent jusqu'à 50 km/h. Les températures, elles sont encore fraîches hein, demain matin avec 0 à Charleville-Mézières, 2 pour Épinal, 4 à Lille et Nancy, 7 pour Paris, 9 à Rodez et Niort, 12 à Biarritz et jusqu'à 16 degrés pour Ajaccio. Et puis au meilleur de la journée, nous aurons 12 à 18 degrés près de la Manche, 17 à 21 degrés en général. Ça grimpe pas beaucoup, on va gagner à peu près 1 degré par ville et 21 à 23 degrés près de la Méditerranée.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Europe 1. 22h17, vous ne bougez pas dans un instant. On fait le point sur les places financières avant l'interview écho d'Emmanuel Duteil. Yann Géhanneau, le patron des agences immobilières La Forêt. On va voir comment ça se présente la reprise, si reprise il y a dans l'immobilier. A tout de suite.
Europe 1.
À 22h18, on fait un point sur la bourse avec vous, Claire Lemaître de boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Théo.
Comment ça se présente sur les marchés aujourd'hui? Comment ça s'est passé?
Alors il y a eu beaucoup de nervosité hein, et finalement le Dow Jones gagne 0,25%, 23 685 points. Pour le Nasdaq, c'est un gain de 0,8% à 9 014 points. Les tensions commerciales continuent d'empoisonner les marchés. Les États-Unis visent une nouvelle fois le chinois Huawei et vont restreindre les livraisons de semi-conducteurs à l'équipementier télécom. C'est Donald Trump hein, qui a relancé cette guerre en accusant Pékin d'avoir menti sur l'ampleur du coronavirus. Et la Chine, eh bien, elle ne se laisse pas faire. Elle menace de créer une liste d'entreprises américaines non fiables. Parmi ces entreprises, il y aurait Apple qui perd 0,7%. Il y aurait aussi Boeing qui perd 2% ou encore Intel en recul de 1,4%. Réaction logique hein, de ces entreprises qui pèsent très lourd à Wall Street. Alors en hausse, on a tout de même Facebook qui poursuit ses emplettes et qui va s'offrir Giphy, la plateforme d'images GIF, ces images animés qui sont très partagés sur les réseaux sociaux. Plus 2% donc pour Facebook. Et puis le pétrole bondit encore de 7,4% à New York. $29,60 pour le baril WTI.
Le CAC 40 a terminé en hausse pour la première fois de la semaine. Youpi!
Oui, alors c'est vraiment une toute petite hausse, hein, plus de 0,11% à 4277 points, après 4 séances dans le rouge et 6% perdu au total sur la semaine. Une belle performance pour Telsat, en hausse de 7,4% après ses résultats trimestriels. L'opérateur de satellite prévoit un impact limité de la crise sur son chiffre d'affaires. Et puis Pierre et Vacances Center Park, c'est toujours porté par les annonces du gouvernement hier. Il sera possible hein, de partir partir en vacances cet été en France. Le spécialiste des résidences de tourisme avait gagné près de 8%. Hier, il bondit encore de 11% ce soir.
Les semi-conducteurs, Claire, ont souffert de la montée des tensions commerciales.
Oui, c'est le cas de ST Microelectronics qui perd 3%. C'est le plus fort recul du jour sur le CAC 40. Et puis un mot d'ADP, Aéroport de Paris, qui perd 2%. Le groupe a annoncé, mais après la clôture des marchés ce soir, que le trafic total dans ces aéroports s'est littéralement effondré en avril avec la pandémie, plongeant de 99% du trafic par rapport à avril 2019. Les marchés européens sont partagés ce soir, un gain de 1% pour Londres et même de 1,2% pour Francfort, mais Milan perd 0,1% et Madrid moins 1,1%. À Paris, le CAC 40 gagne 0,1% à 4277 points.
Merci beaucoup pour ce tour d'horizon, Claire Lemaître de boursier.com. Alors qu'une toute dernière minute tombe à l'instant, l'agence de notation Fitch abaisse la perspective de la France, perspective qui passe de stable à négative. On y reviendra évidemment dans nos prochaines éditions, mais ce sera une des infos écho du soir. À 22h21 sur Europe 1, l'heure de l'interview écho, justement, avec vous Emmanuel Duteil et avec vous ce soir Yann Géhanneau, président de La Forêt France, réseau d'agences immobilières qu'on ne présente plus. Comment la reprise se présente pour le secteur? Bonsoir à vous deux.
Bonsoir Yann Géhanneau.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le président de La Forêt France, un réseau immobilier bien connu. Ça y est, on est déconfiné là depuis quelques jours. Est-ce que c'est reparti véritablement le marché de l'immobilier?
Oui, alors en effet, les agences ont ouvert leurs portes depuis le début de la semaine, depuis 5 jours. C'est reparti, ceci dit, avec des clients que l'on voyait revenir depuis l'annonce de la date du 11 mai et du déconfinement. Progressivement, on a repris à peu près 70% de notre activité traditionnelle.
Est-ce que vous sentez qu'il y a un appétit pour le marché immobilier en ce moment, ou c'est des gens qui étaient déjà en acte d'achat avant cette crise et qui ne font finalement que confirmer leur envie?
Alors c'était justement la question que nous nous posions. Nous savions que les Françaises et les Français qui avaient des projets de location, des projets d'acquisition, des projets de vente, déjà en amont de cette période de confinement, allaient être présents dans nos agences. Mais en plus, on observe en effet que beaucoup de nouveaux projets fleurissent, des projets d'investissement locatif. On a fait ses comptes, on s'est penché sur le projet qu'on avait mis de côté un peu pendant les derniers mois. Et puis des locataires également, les étudiants notamment, qui reviennent massivement. Donc un peu des deux.
Un peu des deux. Est-ce qu'il y a des changements dans ce marché immobilier? On a pas mal lu que pendant la crise, certains qui notamment avaient quitté les grandes villes se sont dit bah, « Tiens, ce serait super de vivre un peu plus loin d'une grande ville dans une maison ». Ça, c'est une vision totalement parisienne des choses ou c'est une réalité?
On a vécu pendant 2 mois les yeux dans les yeux avec notre logement et c'est vrai que on a identifié des défauts de ce logement, des vis-à-vis qui étaient très présents, des logements ou des immeubles qui étaient bruyants par exemple, une pièce qui nous manquait pour y télétravailler. Donc c'est vrai que dans l'intention, on a vu et on l'a vu sur notre site internet, les requêtes pour les recherches de maisons ont progressé de 12%. Par rapport à la même période l'année dernière. Donc il y a cet intérêt sur le papier pour un cadre différent. Est-ce que cet intérêt se traduira dans les faits? Il est beaucoup trop tôt pour le savoir. Et rappelons-nous qu'il y a quelques mois, en fin d'année dernière, lors de la grève des transports en commun, tout le monde rêvait finalement d'avoir son domicile à 500 mètres de son bureau pour pouvoir y aller à pied. Donc attendons un peu.
Attendons un peu. Ce qui est intéressant, c'est ce que vous dites par exemple sur le télétravail. Dans beaucoup d'entreprises, le télétravail va sûrement se généraliser beaucoup plus que ce qui était le cas jusque-là. On a été très nombreux à être confrontés à un télétravail forcé où effectivement il fallait s'installer pas obligatoirement de la meilleure des façons pour pouvoir travailler. Vous sentez là, d'ici depuis quelques jours, que parmi les demandes, il y a un espace où l'on peut installer convenablement un bureau?
Alors, depuis quelques semaines, on voit dans les recherches cette quête de la pièce en plus, cette quête des mètres carrés supplémentaires, cette quête de la terrasse et du balcon également. C'est vrai que ce sont certainement les entreprises qui vont donner le rythme à ces recherches et à ces possibles évolutions. Si demain une entreprise passe ses collaborateurs en télétravail 2 à 3 jours par semaine, c'est vrai qu'on peut, dans ce cadre-là, s'éloigner de son travail et tolérer des temps de transport en commun un peu plus longs, ou de transport individuel d'ailleurs.
Qu'est-ce qu'il en est des prix ? Puisque pendant cette crise, on a beaucoup dit qu'on allait avoir un effondrement du marché immobilier. Qu'en est-il ?
Alors, il est trop tôt. En effet, on y va partout avec sa boule de cristal. Il est trop tôt pour le savoir parce que finalement, les ventes qui se font aujourd'hui sont des ventes qui avaient été entamées avant cette période de confinement, donc qui sont sur les bases de prix qu'on connaissait à cette période. Celles qui se font également, l'autre partie, aujourd'hui, sont des ventes très particulières avec des gens qui avaient besoin de se loger rapidement, de faire des acquisitions rapides. Donc aujourd'hui, ça reflète les prix d'il y a quelques mois. Pour l'avenir, on en saura finalement beaucoup plus. Certainement, à partir du mois de septembre, on aura une analyse plus fine, plus claire du comportement des acquéreurs face aux prix immobiliers.
Mais vous n'avez pour le moment, vous, du côté de chez La Forêt France, pas de signe d'inquiétude majeur.
Ah non, aujourd'hui, nous n'enregistrons pas de baisse de prix sur les acquisitions immobilières qui, une nouvelle fois, se font dans la continuité du marché que l'on connaissait avant cette période de confinement.
Comme pour beaucoup de métiers, les visites ont particulièrement évolué avec cette crise. J'imagine que maintenant, tous vos vendeurs sont, en tout cas tous vos agents sont masqués, on ne peut pas se serrer la main, etc., etc. Qu'est-ce que ça change concrètement dans ce qui était quand même capital, c'est-à-dire la relation humaine ?
Alors nous avons en effet, pour effectuer notre travail au quotidien, mis en place un protocole sanitaire qui nous est propre et qui est drastique. Ce que ça change finalement dans les visites, c'est qu'on est moins nombreux à visiter. Ce que ça change, c'est qu'on découvre beaucoup plus les projets également des acquéreurs. On fait appel à des visites virtuelles ou à des visites à distance pour présélectionner des biens, mais finalement ces outils digitaux viennent aujourd'hui en complément en effet de la relation physique réelle avec son logement et avec son agent immobilier, et jusqu'à maintenant on n'a pas trouvé de solution pour la remplacer.
C'est-à-dire que ça renforce un petit peu la visite virtuelle et on vient visiter quand véritablement on est quasi sûr d'être intéressé, c'est ça l'idée quand même aujourd'hui?
Pas tout à fait. Depuis le début de la semaine, depuis 5 jours que l'activité des agences à redémarrer, on réalise 70% des visites physiquement et 30% en visite virtuelle filmée au préalable, ou alors des visio-visites, qui est un service que nous avons lancé, des visites à distance avec WhatsApp ou avec Zoom par exemple.
Eh bien, un grand merci Yann Géhanneau, le président de La Forêt France, d'avoir été notre invité ce soir. On se retrouve lundi 22h20.
Merci beaucoup Emmanuel Dutheil, et d'ici là, on retrouve toutes vos interviews en intégralité sur notre site europe1.fr.
C'était l'invité éco avec la Caisse d'épargne, mobilisée pour être utile aux entrepreneurs et à l'économie. Caisse d'épargne, vous être utile.
Vous restez avec nous dans un petit instant. On jette un coup d'œil à la une de vos journaux de demain. À tout de suite.
Europe 1.
– 22h28 à la une de vos quotidiens, demain matin, travail, loisirs, transport, la France reprend vie à la une du Figaro. Au terme d'une première semaine de déconfinement, le pays redémarre lentement mais sereinement. C'est avec prudence et optimisme que les Français abordent les jours à venir, nous dit le journal. Même s'ils sont peu nombreux à pouvoir remettre leurs enfants à l'école, certains ont repris le chemin du bureau. La quasi-totalité d'entre vous, 95%, assure respecter les gestes barrières, mais peu d'entre vous toutefois ont repris la vie d'avant le confinement. Vous êtes les 2/3 à avouer ne pas encore avoir revu votre famille ou vos amis, car le virus circule toujours, rappelle le Figaro. Il a fait, je vous le disais, 104 nouvelles victimes ces dernières 24 heures. En ce début de week-end de déconfinement, où certains d'entre vous vont peut-être chercher un peu d'air, comment revivre avec la nature ? Ça, c'est à la une du Parisien. Aujourd'hui en France, qui se penche sur ces lieux où la faune et la flore ont reconquis l'espace peu à peu laissé par les humains. Le journal Le Parisien qui se penche aussi sur un côté positif de cette épidémie. Elle a donné envie aux Français d'aider les autres. C'est une enquête à retrouver donc dans les colonnes d'Aujourd'hui en France, qui se penche aussi sur le plan massif promis aux soignants par Emmanuel Macron. Plan massif pour l'hôpital. Enfin, en Bretagne, à la une du Télégramme, ces futurs maires face à la crise dans les communes où le premier tour des élections municipales s'est avéré décisif. Des maires vont pouvoir être désignés d'ici à la fin du mois. Le gouvernement y a donné son feu vert cette semaine. En Bretagne, plusieurs têtes de liste élues mais qui n'ont pas encore pu prendre leurs fonctions n'ont pas attendu de pouvoir être installées pour engager des actions face à la pandémie. Six d'entre eux témoignent les actions avant même d'être en fonction et d'avoir pu revêtir leur écharpe tricolore. C'est donc à retrouver dans le Télégramme demain matin. Mais pour l'heure, il est 22h30 sur Europe 1. Vous avez rendez-vous comme tous les soirs avec la Libre Antenne et Sabine Marin qui s'installe. Bonsoir Sabine.